France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Pendant longtemps, on a cru que seul Homo sapiens avait su maîtriser le feu. Mais la question de sa domestication continue d'enflammer les débats chez les archéologues. Depuis quand et comment nos ancêtres ont-ils dompté les flammes ? Homo erectus exploitait probablement la combustion il y a 1,5 million d'années, mais entre l'usage du feu et sa maîtrise intentionnelle, ce n'est pas la même affaire. Une étude de la revue Nature vient d'identifier le plus ancien briquet au monde, des éclats de pyrite sur un site néandertalien en Angleterre, vieux de 400 000 ans. Grâce au progrès de l'archéologie et aux nouvelles méthodes d'analyse géochimique, nous comprenons mieux cette révolution culturelle et technologique. Plongeons dans cette histoire brûlante qui a façonné notre espèce. Maîtrise du feu, silex éducation. Marie-Hélène Moncel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne et directrice de recherche au CNRS. Antoine Balzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et nous sommes en ligne avec Ségolène Van de Velde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en archéologie, professeur associé à l'Université du Québec Chicoutimi, chercheuse postdoctorale de Marie Sklodowska-Curie à l'Université de Cantabrie. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous. Vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast, vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous des liens, des podcasts, tout ça pour nourrir votre écoute. Et c'est à retrouver sur notre compte à Science CQFD. Alors, quelles étaient les techniques du feu au Paléolithique? Comment retrouver la trace archéologique d'un phénomène thermodynamique aussi éphémère? Et quelles ont été les conséquences de cette domestication? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais avant de parler de cette conquête, il faut se rafraîchir la mémoire. Antoine Balzo, est-ce que je peux vous demander de nous faire un petit rappel, une frise chronologique du Paléolithique avec ces différentes espèces qu'on va croiser dans cette histoire-là?
Oui, c'est une histoire complexe qui concerne plusieurs humanités. C'est ça qui est intéressant et intriguant, en quelque sorte. Parmi les protagonistes, on a donc Homo erectus, humain apparu il y a à peu près 2 millions d'années en Afrique et qui s'est étendu sur tout l'Ancien Monde, assez largement. Et puis, en parallèle de cette grande histoire-là, plus tard, Homo sapiens et les Néandertaliens sont apparus il y a 800 000 ans, 1 million d'années, on ne sait pas exactement à quelle échéance ça s'est fait, mais ce sont ces trois groupes humains apparus en parallèle qui semblent être témoins, tous les trois, de l'apparition et de l'usage du feu.
Et en Europe aussi, quelles sont les différentes humanités qu'on peut voir dans cette histoire-là, Marie-Hélène Moncel?
Alors en Europe, c'est un monde différent de ce qui se passe en Afrique, puisque c'est le monde des Néandertaliens qui apparaît à peu près autour de 400 000 ans, Antoine pourra me confirmer. Mais on a avant des autres hominidés qui sont arrivés, on a plus d'un million d'années, qui sont appelés les collègues espagnols Homo antecessor ou Homo affinité erectus. Et ensuite, d'autres hominidés qu'on regroupe sous le terme d'Homo heidelbergensis, dans lequel probablement dérivent les Néandertaliens.
Et là encore, petite affaire de définition, Ségolène Van de Velde, on peut faire donc ce distinguo entre usage du feu et maîtrise. Quand on parle de domestication, finalement, on parle de quoi ?
Alors, quand on parle de domestication du feu, c'est vraiment quand le feu va petit à petit complètement intégrer le répertoire technologique, en fait, des humains. Donc, on peut utiliser le feu avec un usage opportuniste. Donc, il y a des feux naturels, de la foudre, etc. Et on va pouvoir récupérer ce feu et l'utiliser. Ensuite, il y a la maîtrise du feu. On va pouvoir utiliser le feu pour faire des choses. On sait le conserver, on sait le maintenir. On peut le transporter. Et puis, il y a la question de l'allumage qui, là encore, est différente. Et donc, souvent, il y a ces trois étapes-là qui sont vues. Mais qui sont conçus comme les trois grandes étapes de domestication du feu. Mais on se rend compte petit à petit avec les découvertes que c'est pas forcément linéaire et que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
Voilà, la capacité d'allumage intentionnel et de son contrôle, ça c'est très difficile à prouver. Quelles sont les plus anciennes traces dont on dispose? C'est notre archive du jour.
On peut dire que au moment de l'Octotavel, il y a de 550 000 ans jusqu'à 400 000 ans, entre 550 000 et 400 000 ans, l'homme ne paraît pas avoir connu le feu, tout au moins à Totavel. Et d'ailleurs, c'est une constatation générale, puisqu'actuellement, les plus anciens foyers aménagés, indiscutables, construit par l'homme et ou dans lequel un feu a été entretenu, semble un peu plus récent. Les plus vieux foyers aménagés, actuellement connus dans le monde, sont le site les foyers de Terramata à Nice, qui ont été datés d'environ 350 000, 380 000 ans. Là, l'homme avait creusé dans le sable une petite cuvette dans laquelle il entretenait des feux de charbon, de bois et d'ossements, protégés par une petite murette de pierre ou de galets pour protéger ses foyers des vents dominants. Des foyers à peu près semblables ont été trouvés en Hongrie, à Vertezolos, dans un site qui est situé à peu près à 60 km à l'ouest de Budapest, et qui ont été datés de 380 000 ans aussi. Enfin, le site de Choukoutien, en Chine, qui est daté de peut-être 300 000 ans environ, enfin d'environ 300 000 ans, qui n'est pas bien daté, d'environ 300 000 ans, dans lequel ont été trouvées des quantités considérables de cendres, des chambres de bois, et des foyers ont pu être mis en évidence. Et ces foyers sont actuellement les plus vieux foyers actuellement connus dans le monde. Et on a vraiment l'impression que c'est vers cette époque-là que l'homme, on ne peut pas dire a inventé le feu, car ce n'est pas l'homme qui a inventé le feu. Les hommes bien plus anciens avaient vu des feux de volcans, des feux de forêt. Mais c'est à partir de ce moment-là que l'homme a su domestiquer le feu et l'utiliser, l'allumer, l'entretenir et le domestiquer.
La voix d'Henri de Lumley, préhistorien et paléanthropologue français, et un extrait de l'émission Les Chemins de la Connaissance sur France Culture en 1980. Antoine Balzo, une réaction à l'écoute de cette archive.
Que c'est un sujet qui est extrêmement difficile à saisir. Savoir qui le premier a allumé le feu, c'est forcément pas évident parce qu'on en a des traces très partielles. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à minimiser, c'est cette notion d'ancienneté des découvertes. On donne l'impression, souvent en préhistoire, que quand on trouve quelque chose, on a trouvé le premier. Dans les faits, c'est jamais le cas. Il y en a certainement eu avant et il y a une préservation qui est partielle de toutes ces informations-là. Pour l'évolution humaine, on le voit bien, on a peu de fossiles, c'est pas évident d'arriver à structurer. Pour des comportements aussi complexes que l'utilisation, l'exploitation du feu, c'est encore plus difficile d'arriver à l'apprécier, à l'interpréter au cours du temps.
Ce que vous nous dites, c'est attention au biais des archives archéologiques. Vous souhaitiez réagir,
oui,
Marie-Hélène Moncel.
Parce qu'en fait, Henri de Lumley parle d'un site, Terramata, qui est un site emblématique, qui correspond à cette fameuse période autour de 400 000 ans, où on voit un peu partout la capacité à fabriquer le feu. Donc ça, c'est quelque chose de général, qui correspond à un long moment très interglaciaire, très tempéré, qui peut expliquer également la mise en place de cette innovation. Alors bien sûr, comme le dit Antoine, on ne sait pas l'origine. Est-ce que c'est un groupe particulier et ensuite il y a diffusion? Est-ce que c'est un saut cognitif qui correspond à différentes hominidés qui sont capables de fabriquer ce feu? Mais à un moment donné, le phénomène est assez largement répandu pour qu'on soit capable de le voir au niveau archéologique.
Avant ce moins 400 000 ans, qui correspond presque à une sorte de démocratisation du feu, Ségolène Vandevelde, quelles sont les plus anciennes traces, en tout cas, d'usage de feu, les plus anciennes traces de foyers de combustion dont on dispose?
Oui, alors les plus vieilles traces d'utilisation du feu, on les trouve en Afrique, entre 1,5 million et 1 million d'années. Et après, il y a quelques traces aussi, donc justement en Asie, ça a été évoqué par Monsieur de Lumley. Il y a aussi en Israël des sites où il y a vers 780 000 ans une maîtrise du feu, donc pour transformer la nourriture. Ça, c'est des publications assez récentes. Donc, on se rend compte qu'il y a des traces quand même assez anciennes avant cette période de 400 000. Mais c'est vrai qu'à partir de 400 000 et entre 400 et 300 000, là, on a une multiplication du nombre de sites qu'on va trouver en fait un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, au Levant. Mais quand on parle de multiplication du nombre de sites, ça reste quand même assez rare. Et mes collègues le disaient très bien juste avant, plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'identifier ces traces. Et ça peut aussi expliquer en partie la rareté de ces traces de feu, parce qu'elles vont s'altérer. Et donc, avec le temps, les charbons disparaissent, les cendres disparaissent. Et c'est par exemple le cas de Barnham, où il n'y a ni charbon ni cendre.
Marie-Hélène Moncel, toujours en tout cas sur ces temps très reculés. En fait, Homo erectus aurait été le Prométhée du Paléolithique.
Ben, pas vraiment, pas que Homo erectus en fait, probablement différentes hominidés, et comme je disais tout à l'heure, un saut cognitif, parce que ce feu arrive en même temps que d'autres innovations. Dans les outillages, dans les comportements de subsistance, lors de ces longues périodes tempérées, glaciaires, il est probable que ça a favorisé donc, le développement et la diffusion de ces innovations, en tout cas en Europe, mais la même chose apparaît également sur d'autres continents, en Asie et en Afrique.
Et puis on évoquait à l'instant 780 000 en Israël, l'ancien site du pont des filles de Jacob, hein, proche du lac Tibériade en Israël. Là, Antoine Balzo, on y trouve même des traces, enfin probablement des traces de cuisson à l'étouffée de carpe aux papillotes, je disais.
C'est merveilleux. Ils inventent la cuisine il y a très longtemps. En fait, c'est un des aspects qui est compliqué aussi à apprécier parce que, en général, sur toutes ces recherches qu'on peut faire sur la préhistoire, il y a une dissociation dans la manière dont on conçoit, on crée les idées, les théories et l'information archéologique. Et c'est difficile de savoir dans quel ordre même mettre les choses. Par exemple, Homo habilis, ça avait été défini dans une logique de dire que c'était le premier fabricant d'outils. Dans les années 70, on avait des outils, on avait des restes humains, on a créé cette espèce à dessein dans cette perspective. Aujourd'hui, on sait que les outils sont plus anciens qu'Homo habilis, ce qui change complètement la physionomie. Et le feu, on est un petit peu aussi dans cette recherche circulaire de capacité qu'on attend supérieur, un cerveau plus gros, des humains plus intelligents. Donc certains chercheurs, pendant longtemps, ont restreint la possibilité d'exploiter le feu à Homo sapiens par raisonnement complètement tautologique. L'effet archéologique nous montre que c'est beaucoup plus dispersé, et donc ça soulève aussi beaucoup de réflexions à mener sur la mise en place de ces capacités, quels humains ont pu le faire, comment ils ont pu le faire, comment ça s'est étendu à travers le monde.
En tout cas, voilà, moins 400 000 en Afrique, en Asie. On voit qu'on passe de quelques sites épars à une véritable flambée de traces. Donc ça veut dire qu'il semble qu'il se passe quelque chose en tout point du globe, Antoine Balzo.
En tout point, ça reste relatif. Ce sont juste quelques points en quelques endroits. Il ne faut pas oublier que le registre archéologique est vraiment partiel. Par contre, ce qui est notable, c'est qu'on passe de points très localisés, uniques, à, d'un seul coup, quelques points sur l'ensemble de l'Ancien Monde. Et c'est ça qui est quelque chose de plus avancé, de plus important, qui change quelque peu la donne. On passe de l'occasionnel à des choses plus fréquentes.
Marie-Hélène Moncel.
Oui, parce qu'en fait, les sites avant 400 000 ans sont vraiment très, 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 très rares. Hein. Ils comptent sur le nombre de doigts d'une main. Et en fait, il y a souvent, comme disait Antoine, des débats sur justement comment expliquer ces traces très fugaces. Est-ce que c'est récupération d'un feu naturel et il va être entretenu? Mais en tout cas, il n'y a pas de preuve de fabrication, de capacité à fabriquer, contrairement à partir de 400 000 ans, où là, on a vraiment des évidences comme à Barnum, de la capacité à fabriquer ce feu.
Barnum, justement, alors comment distinguer un feu opportuniste d'un feu technique? Quelles traces laisse-t-il dans le paysage? Et comment analyser ces traces fugaces? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Comment comprend-on aujourd'hui la domestication du feu par les hommes préhistoriques? C'est la question qu'on se pose en direct sur France Culture avec Marie-Hélène Moncel, Antoine Balzo et Ségolène Van de Velde. On vient de voir qu'on a des traces très anciennes, jusqu'à 1,5 million d'années en Afrique, des signes de cuisine au Moyen-Orient, des traces anciennes un peu partout. Mais si on reste en France, on arrive à moins 400 000 ans, où là on commence à avoir des traces de feu. Et puis il y a cette étude Nature parue le 10 décembre sur le site de Barnum, en Angleterre, qui montre des traces d'un peuplement néandertalien avec des sédiments rougis par la combustion d'un feu, volontairement, de manière répétée. Il y a donc plus de 400 000 ans, avec des éclats de pyrite, sur ce on y reviendra, mais on lit partout que la domestication du feu recule de 350 000 ans dans la presse écrite. Alors ça, Marie-Hélène Moncel, il faut peut-être un peu nuancer ce constat.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait Barnum est connu depuis longtemps. Je travaille avec ses collègues en Angleterre, du British Museum, et il m'avait montré depuis un moment qu'il y avait des traces évidentes de feu, de silex brûlé, de traces. Mais là, pour la première fois, ils ont trouvé donc de petits fragments de cette pyrite, donc j'ai eu la chance de les voir. Hein. C'est vraiment des tout petits fragments. Ils ont eu beaucoup de chance de les récupérer en tamisant les sédiments. Et donc là, on a vraiment l'évidence que ces fragments ont été utilisés comme un briquet, comme vous disiez. D'autant plus qu'ils ne viennent pas des environs du site. Ils ont pu montrer que leur origine était autour de 15 km. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu arriver par des processus naturels dans le site. Donc là, c'est ça l'événement, à mon avis, majeur de ce site, de prouver la fabrication de ce feu par cette pyrite.
C'est ça, c'est que Ségolène Van de Velde, 15 km, ça veut dire que ces morceaux de pyrite ont donc été déplacés, ça veut dire qu'on savait comment s'en servir, à quoi ils servaient.
Oui, alors en fait, on trouve des fragments de pyrite sur d'autres sites du paléolithique moyen en Europe aussi. Par exemple, il y en a à la grotte de Skladina. Mais souvent, on ne sait pas, on va pas forcément tout de suite l'attribuer à la fabrication du feu parce qu'il n'y a pas forcément des traces de feu associées. Et ce qui est intéressant à Barnham, c'est qu'il y a vraiment une étude multiméthode et multiproxy, donc c'est-à-dire qu'ils vont utiliser donc plusieurs méthodes, mais pour aussi étudier différentes choses, hein, les sédiments, la pyrite, etc. Et tous ces éléments ensemble sont un faisceau d'indices concordants assez solides pour parler justement de pas seulement de maîtrise du feu, comme les autres cas donc à 400 000 ans en Europe, mais vraiment de capacité d'allumage. Et pourquoi on dit que c'est 350 000 ans avant ce qu'on savait jusqu'ici? Parce que, en fait, en 2018-2019, il y a une étude qui a été publiée donc par Andrew Sorensen, qui est un des auteurs de ce papier, qui montre en fait la découverte d'un briquet. Donc là, c'est l'autre partie, c'est le morceau de silex qui a servi donc à faire de la percussion contre de la pyrite ou de la marcassite, qui a été découvert. Et ce paléobriquet est daté de 50 000 ans avant le présent. Et donc là, on aurait donc une autre partie du briquet, donc pas le briquet mais la pyrite, qui donc est 350 000 ans plus vieux.
On parle de paléobriquet, Antoine Balsau, au paléolithique, il y a deux grandes manières d'allumer le feu. Quelles sont-elles?
À vrai dire, moi, j'en sais rien.
Ou Marie-Hélène Moncel aussi.
Oui, alors, voilà, il y a eu des études expérimentales qui ont été faites, soit par friction, soit par percussion. Et donc, la pyrite de fer pourrait être la partie percussion. Mais juste pour rebondir...
Alors, percussion, ça veut dire...
En frappant et en faisant des petites étincelles qui peuvent retomber sur des herbes sèches, enfin des petits éléments qui peuvent après être entretenus. Et pour revenir jusqu'à ce paléobriquet, je peux vous dire que, par exemple, je fouille un site néandertalien et on a trouvé l'année dernière, dans un niveau de 250 000 ans, un morceau de pyrite, et pas petit, avec des traces de percussion. Et donc, on est en train de travailler justement et dans un site où il y a du feu, probablement ce fragment qui ne vient pas non plus des environs du site. Donc, ça veut dire quelque chose qui est conservé, entretenu, qu'on transporte avec soi par ces groupes néandertaliens.
Alors, par percussion, en effet, avec cette pyrite, contrairement à une rumeur qui est très très répandue, c'est impossible d'allumer un feu avec juste deux morceaux de silex. Sur ce, Ségolène Van de Velde, il y a aussi donc cette technique de friction. Alors ça, c'est une technique qu'on espère difficilement retrouver des traces de feu par friction.
Oui, c'est ça. Alors, par friction, en fait, c'est deux morceaux de bois qu'on va frotter ensemble. Et en fait, ça crée petit à petit une espèce de sûre très chaude qui va enflammer le bois. Souvent, ça se fait avec une corde en plus ou un archet. Et c'est des techniques donc qui sont largement utilisées et documentées en ethnographie. Mais comme c'est du bois, il y a très peu de chances d'en identifier des traces, en fait, sur les sites très anciens. Et sur les villages néolithiques, palafitiques, où il y a pourtant un usage du feu, on ne trouve pas non plus ces traces-là. Donc peut-être que là aussi, la percussion est utilisée. Parce que la percussion est une technique qui est donc utilisée depuis la préhistoire. Et là, on voit avec cette publication depuis très longtemps. Mais ça continue à être utilisé et c'est encore documenté ethnographiquement.
En tout cas, on va aller voir ces paléobriquets et cette pyrite de plus près avec leur reportage du jour. Les fragments de pyrite, comme ceux trouvés à Barnham, constituent les preuves les plus solides d'un allumage intentionnel du feu et leur découverte demeure un événement particulièrement rare. On part les découvrir de plus près avec vous, Joseph Schlegel. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes rendu au Musée de l'Homme pour observer ces artefacts témoins de notre domestication du feu.
Eh bien, effectivement, puisque comme tous les sites rattachés au Muséum National d'Histoire Naturelle, le Musée de l'Homme n'est pas qu'un lieu destiné à l'accueil du grand public, c'est aussi un laboratoire à la pointe de la recherche, où l'on a inventorié un siècle et demi d'archéologie française. Alors, monsieur Roland Nespoulet, directeur des collections de préhistoire, m'a fait découvrir les réserves souterraines du palais de Chaillot pour en savoir un peu plus sur ces briquets du paléolithique. J'ai eu la chance de manipuler deux morceaux de pyrite, trouvés en contexte archéologique, qui étaient certainement destinés à l'allumage d'un feu. «
C'est ici qu'on stocke. C'est un couloir qui fait toute l'aile passie du palais de Chaillot. Pour la petite anecdote, certains plans de la jetée de Chris Marker ont été tournés ici. Ici, à notre gauche, c'est là qu'il y a les coffres-forts ou les pièces les plus importantes qui sont protégées. Sur notre droite, tout le long, il y a une série de portes. Ça, c'est l'anthropologie biologique, donc c'est les vestiges humains. On va avancer de ce côté-là. C'est les portes qui ouvrent sur les réserves de préhistoire qui contiennent un certain nombre d'objets.
Alors, quels sont les grands types d'objets qu'on peut retrouver dans ces collections?
En fait, ce qu'on a, c'est ce qui se conserve. Il faut bien avoir à l'esprit que, notamment pour les périodes les plus anciennes, on va dire au-delà de 10 000 ans, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Toutes les matières organiques, les peaux, par exemple. Et il y a d'autres matériaux, d'une façon peut-être un peu plus inattendue, qu'on croirait extrêmement stables, extrêmement durs, notamment tout ce qui est à base de fer, les oxydes de fer, sont extrêmement sensibles à l'altération, à l'oxydation à travers le temps. Et on a très peu de ce qu'on peut qualifier de briquets de la préhistoire. Ce sont donc des oxydes de fer très particuliers et qui ont cette caractéristique d'être extrêmement sensibles à l'humidité, à la corrosion par le temps. Et donc c'est extrêmement rare de les trouver dans les sites préhistoriques. Ceci explique que pour l'instant, dans l'état de la recherche, on a inventorié sur 500 000 pièces que deux objets qui correspondent à cette caractéristique du briquet.
Donc on ne risque pas de ramasser un morceau de pyrite en se baissant, en se baladant?
Alors, une pyrite actuelle, si, sans problème. Mais une pyrite qui aurait pu être un briquet d'un de nos ancêtres il y a 200 000 ans, il y a quand même très peu de chances de la retrouver, en tout cas dans un état de conservation, qui permette de l'identifier comme ça. Donc là, je viens de sortir une pyrite de fer, trouvée en contexte archéologique, donc collection Mortier, mais... Prenez-la dans la main, vous allez voir, en fait, la première détermination, c'est le poids, en fait. C'est du fer quasiment pur. Et ça, c'est le premier élément de détermination, même si on n'est pas minéralogiste ou géochimiste. Rien que la manipulation de ces objets, c'est beaucoup plus lourd qu'un caillou habituel. Et c'est ça qui permet déjà d'avoir un indice.
C'est très particulier comme objet, on dirait une sorte de petite balle de golf, très irrégulière, voilà. mais extrêmement lourde.
Et c'est déjà une assez grosse pyrite. En tout cas, pour un contexte archéologique, en général... On retrouve plutôt des fragments de l'ordre du centimètre ou du millimètre. Donc ça, c'est vraiment une pièce tout à fait exceptionnelle par son état de conservation. Et puis, on a une deuxième. Alors ça vient du Ténéré, donc c'est provenance d'Afrique subsaharienne, du Sahara. Et celle-ci, elle est encore plus ronde, elle est encore plus magnifique. C'est donc là aussi au poids, il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une pierre tout à fait comme les autres. C'est quasiment du fer pur. Lorsqu'on parle de domestication du feu, c'est la capacité de faire du feu en tout lieu et en tout temps, avec un petit équipement qui est finalement déjà très élaboré, puisqu'il faut déjà identifier ces pyrites et cette marcassite dans l'environnement. Donc il faut trouver les sources minérales, donc ça veut dire une très bonne connaissance de l'environnement. Et ensuite, il faut un autre outil, c'est la pierre à briquet, en fait, pour activer ça. C'est exactement comme un briquet moderne, c'est-à-dire qu'on a... l'oxyde de fer qui va produire l'étincelle, et puis il y a quelque chose qui doit frotter dessus. Et ce qu'on a ici, alors ce que j'ai sorti ici, c'est des lames de silex, une matière qui est très dure, c'est un des matériaux les plus durs. Et ce qu'on retrouve à la pointe de ces lames qui ont été retouchées, c'est des émoussés qui peuvent être produits par en fait ce geste-là, c'est-à-dire qu'on tape sur la pyrite pour produire l'étincelle. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Le briquet paléolithique, c'est une petite trousse à outils avec lame de silex, pyrite, et c'est les deux qui vont amener à faire du feu. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce que ces deux outils-là ne suffisent pas. Il faut avoir aussi soit des brindilles, soit des matériaux extrêmement secs et extrêmement inflammables, comme par exemple des champignons, de l'amadou sec, pour pouvoir commencer le feu.
C'est ça, donc entre l'amadou, le silex, la pyrite, ces objets, ça traduit pas seulement un répertoire technique, mais aussi un rapport à l'environnement pour les populations concernées.
Exactement. Et en fait, le lien entre cet environnement et des savoirs techniques, c'est ce qu'on appelle la culture, en fait. C'est-à-dire que ce qui paraît être extrêmement simple, au passage, je mets au défi la plupart de nos contemporains du 21e siècle d'allumer du feu comme ça dans la nature. Il y a un certain nombre de gens qui arrivent, mais ce n'est pas évident. C'est donc quelque chose qu'on apprend. Et c'est une culture qui s'exprime, c'est une forme d'adaptation culturelle.
Est-ce que vous avez déjà allumé un feu ? Avec des objets comme ceci ?
Alors, j'ai essayé, j'ai des collègues qui le font beaucoup mieux que moi. C'est réellement un savoir-faire, donc oui, on y arrive, mais entre quelqu'un qui sait faire, aujourd'hui, je parle des expérimentateurs, et qui vont mettre quelques instants pour allumer un feu, un vrai feu, et puis même un spécialiste de la préhistoire qui s'essaye à ça, c'est pas du tout le même résultat.
Vous m'avez dit que c'était des objets plutôt récents, on peut imaginer qu'il y a 400 000 ans, par exemple, ça aurait été peut-être un peu plus rudimentaire dans la forme des objets.
Alors, on peut juste en tournant le regard, puisqu'on a à peu près tout à disposition au Musée de l'Homme. Ici, on a des objets qui proviennent de ces périodes-là, hein, de ce qu'on appelle l'âge holéen. Effectivement, ils paraissent plus massifs, mais ils n'en sont pas moins élaborés. Effectivement, ce n'est pas ce qu'on appelle une lame du paléolithique récent, mais il y a des objets tout à fait fins dès l'âge holéen. Donc, il n'y a pas de hiérarchie technique, il y a des savoir-faire différents qui s'expriment différemment. Sur les sites archéologiques, on trouve des objets transformés. Par exemple, pour reprendre l'exemple du briquet, des éléments de marcacite qui portent des stigmates, des traces de percussions pour allumer du feu. Mais il y a aussi, et c'est l'exemple ici, des éléments, des pyrites ou de marcacite qui n'ont pas encore été transformés. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes préhistoriques anticipaient, ramenaient des matériaux. Et je pourrais faire la comparaison avec le silex. Ce qu'on a sous les yeux, là, c'est du silex transformé, qu'on dit débité, hein. Il y a eu de la taille du silex. Mais on a aussi, sur les sites préhistoriques, des blocs qui n'ont pas encore été touchés. C'est-à-dire que les hommes ont amené des blocs de silex naturels, non transformés, comme réserve de matériaux pour des activités futures. Et même pour aller plus loin, et c'est valable aussi bien sur les pyrites que sur les objets, comme les lames en silex qui ont servi à percuter, on étudie ça expérimentalement et au microscope électronique à balayage. Et là, on arrive à retrouver, à une échelle microscopique, des traces d'usure, des traces d'écaillement, par exemple, qui sont caractéristiques du briquet.
Et donc, on est capable de dire si ces traces ont été créées par une opération visant à produire du feu.
Exactement. Et il faut trouver la bonne pièce. Et puis, il y a tout un protocole d'étude. On appelle ça la tracéologie. Protocole d'étude qui permet d'affirmer cette lame et les traces microscopiques qu'on observe dessus, cette lame a servi à percuter une marcassite.
Merci Joseph Schlegel. Nos reportages loin du studio pour découvrir les lieux du savoir scientifique et la science en marche, c'est notre collection La Science au Labo. Et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Antoine Balzo, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, ben c'est une belle illustration de la difficulté de nos métiers. Moi, je suis paléoanthropologue, je travaille sur des fossiles humains et on a tous conscience que c'est quelque chose de rare. Mais quand il s'agit de comprendre les gestes, les comportements, les capacités des humains, c'est encore plus difficile parce qu'on en a des traces qui sont extrêmement diffuses. Quand on imagine un site archéologique, préhistorique, on a l'impression qu'on arrive à reconstituer des choses, à montrer des zones de vie. Et on a un peu en tête l'idée que on peut faire revivre le lieu de vie des humains du passé. En fait, ça, c'est plutôt exceptionnel d'être capable d'avoir des zones et de comprendre ce qui s'est passé de manière localisée. C'est très rare. La plupart du temps, ce qu'on a, c'est des amoncellements au cours du temps d'objets qui sont très peu conservés. On fouille finalement les déchets laissés par les humains préhistoriques et en plus les déchets qui se sont dégradés, qui ont disparu au cours du temps. C'est pour ça qu'arriver à aller dans la finesse du quotidien des humains, ça reste complètement exceptionnel. Et pour reconstituer des gestes aussi complexes que l'allumage du feu ou une grande partie des matériaux, le bois, les matières sèches ne se conservent absolument pas, on est dans la spéculation, on a très très peu de traces. Alors heureusement, les progrès technologiques aujourd'hui permettent d'avoir des techniques plus complexes, plus élaborées, qui vont permettre de retrouver des traces de végétaux, des marques d'usure, d'usage, et on arrive à mieux appréhender ça, mieux comprendre à quoi ont servi les objets qu'on arrive à retrouver, mais on est encore très très loin de pouvoir reconstituer le quotidien des humains et faire revivre tous les gestes qu'ils pouvaient faire.
Oui, puisque l'on entendait dans ce reportage Roland Nespoulet essayer d'utiliser une pyrite pour allumer un feu, l'archéologie expérimentale pour notre compréhension des techniques du feu, c'est pas quelque chose qui a été très utile justement pour comprendre cette histoire-là, Marie-Hélène Moncel?
Si, bien sûr, elle est indispensable, hein. Mais comme disait Antoine, ce qui est indispensable aussi, c'est qu'on arrive à faire parler de plus en plus les sites archéologiques et notamment le monde de l'invisible. Comme il le disait, on va de plus en plus loin et en effet, on fouille les poubelles, c'est-à-dire ceux qui nous ont bien voulu nous laisser. Et en plus, je raconte, pour moi, une fouille archéologique, c'est un peu comme si on lit un livre et qu'on déchire la page à chaque fois qu'on vient de la lire. Donc en fait, il faut faire extrêmement attention à récupérer tous les petits détails, tous les petits éléments qui nous permettent de faire parler, en particulier ce monde de l'invisible. Donc ça, c'est une gageure un peu à chaque fois, parce qu'on est sûr qu'on passe à côté d'informations, mais on essaye de faire le mieux qu'on peut quand on fouille un niveau archéologique.
Et ce serait un livre dans lequel la plupart des mots seraient effacés au cours du temps, en plus. C'est la vraie difficulté.
Alors comment justement lire, faire parler ces sites archéologiques, Ségolène Van de Velde, qu'est-ce qui indique la présence passée d'un foyer de combustion? Les cendres, les suies, les fragments du matériel conservé à l'allumage, mais pas que ça.
Oui, en effet, Marie-Hélène a tout à fait raison. Le progrès des méthodes aujourd'hui nous permet de voir davantage de choses qu'on n'était pas capable de déterminer avant. Donc beaucoup de traces anciennes de foyers étaient contestées parce que en fait, on identifiait des traces noires sur les os et on disait que c'était brûlé. Puis on s'est rendu compte après que les oxydes de manganèse noircissaient les os et que dans plusieurs cas où c'était des foyers revendiqués, en fait, c'était pas des foyers, c'était des traces de manganèse. Donc le feu, en fait, ce qui est intéressant dans l'archéologie du feu, donc la pyroarchéologie, c'est que le feu va transformer la matière. Donc il y a des traces qui vont être visibles, par exemple la rubéfaction. Donc ça, c'est un processus où en fait les sédiments ou les parois qui sont à côté d'un feu vont rougir. Et donc ça va laisser une trace visible d'un impact de feu. Mais il y a aussi des traces invisibles qu'on peut révéler, notamment par la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Et c'est ce qui a été fait, par exemple, à Barnham sur les sédiments. Et les auteurs, ils ont pu montrer comme ça que le sédiment, il n'est pas seulement rougi. Et ce qui arrive parfois avec des processus pédologiques, donc on va avoir naturellement des oxydes de fer qui vont être présents. Non, là, avec cette technique, ils ont pu montrer que le sédiment, il est altéré sur une zone restreinte. Donc, c'est bien un foyer, c'est pas un feu naturel qui a couru sur le site. Et le sédiment a atteint des températures supérieures à 750 degrés dans certains cas. Et donc, ça, c'est cohérent avec un foyer qui est utilisé par les humains. Alors, il y a aussi l'archéomagnétisme qui a été utilisé. Et donc là, pareil, la chauffe, en fait, va modifier les propriétés magnétiques du sédiment. Et là, c'est là que l'archéologie expérimentale a été hyper importante aussi pour cette étude, parce que les auteurs donc ont pris un petit peu de sédiment du site qu'ils ont chauffé à différentes températures, à différentes fréquences, sur différentes durées. Et avec les propriétés magnétiques qu'ils ont observées, ils ont pu dire qu'en fait, il n'y a pas un seul événement de feu important, mais plutôt une répétition de plusieurs événements de feu. Et donc là encore, un usage complètement cohérent avec une utilisation par les humains du feu, un usage répété du feu. Et un troisième exemple, en fait, pour cette étude, c'est les HAP. Donc, c'est des hydrocarbones aromatiques polycycliques qui sont des composés organiques, en fait, qui sont produits pendant la combustion. Et en archéologie, sur les cas anciens, on va regarder la proportion de ces molécules lourdes versus les molécules légères pour distinguer les feux naturels et les feux anthropiques, donc faits par les humains. Donc, quand on a des feux naturels, il y a davantage de HAP légers qui peuvent circuler plus loin, alors que quand on est à proximité d'un foyer domestique, on va avoir davantage de HAP lourds qui se déposent plus proche du foyer. Donc là, on a un terrain où il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui ont été beaucoup améliorées ces dernières années, qui sont utilisées ensemble. Et ensemble, donc, on a donc un cas solide d'utilisation répétée et de maîtrise du feu par les humains à Barnham, 400 000 ans avant le présent.
Ah, voilà comment distinguer les feux contrôlés des feux de forêt accidentels. L'intérêt de l'article Nature, Marie-Hélène Monzel, c'est la jonction de toutes ces approches de précision.
Oui, tout à fait. Et ça nous permet de rentrer aussi dans le quotidien de ces hommes, parce que toutes ces analyses géochimiques, l'étude des sédiments, permet de savoir la température de ce feu, la durée, combien de temps a-t-il été utilisé, et également permet de savoir comment il a été alimenté. Par exemple, on arrive à voir par l'étude microscopique des sédiments, si c'est des eaux, ils peuvent utiliser des eaux, si c'est du bois. Donc tous ces éléments nous permettent de rentrer dans le quotidien de ces hommes qui ont vécu dans ce site. Donc c'est par cette étude du monde de l'invisible, en quelque sorte, qu'on va de plus en plus loin dans l'analyse de ces foyers.
Est-ce que ça nous permet aussi de comprendre les usages ? À quoi sert tel type de feu ?
Alors, on a une idée de la température, donc ça peut être un feu de cuisson, ça peut être aussi un feu de chaleur, de lumière. Donc il y a différents types d'analyses qui sont faites sur les sites qui permettent de donner des hypothèses si c'était pour entretenir plutôt la lumière, la chaleur ou pour la cuisson.
Alors pourquoi a-t-on si longtemps cantonné la technique du feu à la seule espèce sapiens ? Restez avec nous, on y arrive.
Yeah. to you means death to me. That's fine with me, you're dead to me. This fire's gonna burn down, you know that this fire's gonna seize and go. We're trying to avoid facts, we're good at leaving things behind, and I'm dancing in my throat, cause it's better than nothing, right? It's more than fire in the sun. My mind is set on solid ground. No past, no future I can see. That now it's time for me to be.
By the Fire de June Bug en direct sur France Culture, car nous faisons de la pyro-archéologie avec nos trois invités du jour. Marie-Hélène Moncel, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Ségolène Vandevelde, docteur en archéologie, professeur associé à l'Université du Québec, Chicoutimi. Et Antoine Balzo, paléanthropologue au CNRS et au MNHN. On a longtemps pensé que la maîtrise du feu constituait le propre de Homo sapiens. Cette révolution technique aurait représenté un moteur du succès de notre espèce. Mais de nouveaux éléments découverts sur un site anglais viennent donc troubler cette image d'Épinal. À moins 400 000 ans, Néandertal maîtrisait le feu. Antoine Balzo, la question de l'espèce, c'est encore quelque chose de très important dans ce débat. Puisque ça l'a longtemps été. Seul Homo sapiens était capable de maîtriser le feu. Enfin,
ça reste un sujet simplement parce que forcément, Homo sapiens, c'est une spécificité, c'est que nous sommes les seuls, a priori, à avoir à ce point cherché à étudier ce qui nous entoure et ce qui nous précède. On fait de la préhistoire. Néandertal en faisait peut-être, de temps en temps il collectait des fossiles anciens, on le sait parce qu'on en retrouve dans des sites. Néanmoins, c'est vrai que les domaines de la science, c'est plutôt nous qui les avons développés, ce qui a amené les chercheurs à aussi partir dans cet état d'esprit qui était que nous étions très intelligents, puisque nous nous posions toutes ces questions-là. Et en l'occurrence, ça a mis aussi une limite sur ce qu'on acceptait pour les espèces humaines anciennes. Et c'est un problème parce qu'on est à la fois sur quelque chose qui est basé sur de la logique, mais forcément en science de la logique, si on n'a pas de données, c'est assez facile. Et puis c'est surtout biaisé par l'état des connaissances qu'on peut avoir et par le contexte culturel. Et là, typiquement, on est sur des sujets, les capacités des humains du passé, où on a beaucoup, beaucoup d'a priori et où justement l'important, c'est de revenir à l'archéologie, aux données scientifiques, de les interpréter, essayer de les comprendre, et là, essayer d'avancer sur les comparaisons entre les humains, sans partir avec des a priori évidents, et surtout sur le fait qu'on est largement supérieur aux autres.
Marie-Hélène Moncel.
Oui, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de sites liés à Homo sapiens, donc statistiquement, on a plus de chances de trouver beaucoup plus d'informations. Plus on recule dans le temps, moins on a de sites. Et bien évidemment, plus on va autour d'un million d'années, par exemple les premiers occupants en Europe, on a vraiment très très peu de sites. Ça aussi, ça peut contribuer au fait qu'on a tendance à attribuer à sapiens beaucoup de choses.
Et puis Ségolène Vandevelde, en fait, ça dépasse même la frontière des espèces humaines, en fait, cette question-là.
En fait, c'est un des biais qu'on a dans la recherche et puis en préhistoire aussi, c'est de tout ramener aux humains et puis en fait, de manière générale, dans l'histoire des sciences. Hein. On a parlé longtemps de le feu qui est le propre de l'humain, le rire qui est le propre de l'humain, etc. Et puis, en fait, plus on étudie le monde animal et les animaux non humains, plus on se rend compte qu'en fait, c'est des comportements qui sont partagés avec d'autres espèces. Donc, que ce soit les vocalisations ludiques, comme ça s'appelle pour le rire dans une étude qui est sortie il y a quelques années. En fait, il y a beaucoup d'espèces qui rient. Et ben pour le feu, c'est pareil. On a même des exemples d'utilisation du feu par des oiseaux. Et on a des utilisations du feu aussi par d'autres primates, notamment des chimpanzés. Donc, vraiment, c'est pas limité à l'humain.
En tout cas, pour revenir à l'humain, la domestication du feu a profondément bouleversé la vie des différents représentants du genre homo au paléolithique. Comment ? On écoute notre deuxième archive.
Les hommes, quand je dis l'homme, non, les hommes ont vu la foudre tomber sur les arbres. Mais il est peut-être possible que pendant des millions d'années, ils ont vu la foudre tomber sur les arbres et s'enfuir. Et puis c'est tout. Le grand phénomène a été à partir du moment où ils ont d'abord commencé à le préserver, à prendre un morceau de ce feu, pour le garder avec eux. Et ensuite, le grand, grand progrès, le progrès décisif, la découverte du feu, comme on pourrait le dire, c'est le jour où ils ont su le faire jaillir avec deux pierres.
Mais est-ce que vous pensez que les hommes préhistoriques, quels qu'ils soient, cherchaient toujours quelque chose qui les réchaufferait? L'homme préhistorique poursuivait toujours un idéal de lumière et d'échauffement et qu'il a trouvé le feu.
Non. Il est beaucoup plus probable de penser que l'homme cherchait tout simplement à survivre. Et par n'importe quel moyen. C'était une lutte constante pour survivre, ne l'oublions pas. On ne faisait que cela, se battre, manger, manger, quand on pouvait manger. Et tous les moyens, en somme, de survivre étaient bons. Le feu a été une arme la plus fantastique, la plus redoutable, une arme si extraordinaire qu'elle a fait un changement total de son existence. Mais au début, ça devait être simplement une arme, rien de plus. Ça a été plus loin que cela. Ça lui a permis, effectivement, de développer son cerveau. Ça lui a permis surtout la sécurité, le repos.
L'Odyssée du feu en 1970. Et là, Antoine Balzo, je vous voyais sauter sur votre fauteuil, puisqu'il y a cette idée en effet courante que le feu et donc la cuisson auraient eu un impact sur le cerveau des humains.
Il y a plusieurs approches. C'est indiscutable que l'alimentation cuite est plus facile à digérer, elle est plus saine, ça apporte des nutriments de manière différente. On ne discutera pas du tout cet aspect-là. Et sur le fait que ça ait forcément joué un rôle dans l'histoire de l'humanité, c'est aussi indiscutable. La petite limite qu'il y a à tout ça, c'est qu'on a une réflexion qui n'est pas de perception d'évolution, mais où on mélange les choses. En fait, on imagine souvent l'évolution comme un progrès. On parle aujourd'hui de progrès quand on a un nouvel iPhone, un nouveau téléphone avec plus de pixels, et on imagine que l'histoire de l'humanité, c'est la même chose, que les outils et les techniques se sont succédés en s'améliorant au cours du temps et en étant de plus en plus performantes, et que ces performances apportaient des capacités en plus aux humains. C'est simpliste. Déjà, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de finalité à l'apparition des choses. Et si des humains, à certains moments, ont eu les capacités de le faire, c'est pas grâce à des progrès préexistants. C'est justement parce que leur cerveau avait les connexions, avait les moyens, et que ces transformations-là se sont mises en place et ont permis ces développements. Et en fait, la clé qu'on a par rapport à tout ce sujet-là, c'est que la logique nous amène à penser que cette alimentation différente apporte plus d'énergie et est meilleure pour le cerveau, et on peut essayer de la rechercher, justement, l'apparition du feu et l'usage et la transformation biologique qui pourrait y avoir chez les humains, et on ne la voit pas dans tous les fossiles humains que l'on a. Au moment où le feu devient plus important, plus développé à travers le monde, il y a 400 000 ans, on a des espèces qui sont différentes, qui ont des cerveaux différents, des anatomies différentes, et il n'y a pas un avant et un après, simplement parce que ces différents humains avaient tous les capacités de faire ces choses-là, tous la connectivité pour le faire, et donc ça a apporté des améliorations probablement à leur vie, mais ça n'a pas été l'outil décisif, l'étape ultime vers un progrès humain. C'est une évolution, c'est des choses qui apparaissent de manière buissonnante.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé de plus gros cerveau après la domestication du feu.
Pas dans les fossiles qu'on trouve. Il n'y a pas un avant, un après, l'allumage du feu.
Marie-Hélène Moncel, vous souhaitez réagir?
Moi, je réagis plutôt en tant que préhistorienne, en tant que comportement. Et notamment, le feu, pour moi, va être vraiment une modification dans les conditions de vie de ces groupes humains. D'abord, la cuisson, bon, ça c'est une chose, mais également la chaleur, la protection contre les carnivores, le fait qu'on n'est plus lié à jour-nuit, on va pouvoir rester plus longtemps le soir. Pourquoi pas imaginer aussi les histoires qu'on va se raconter autour des feux? Pourquoi pas le début des légendes, hein, on peut imaginer tout ça. Mais ça va permettre également à ces hominidés d'occuper des zones plus septentrionales qu'ils avaient du mal à occuper en dehors de périodes climatiques favorables. C'est-à-dire qu'on voit à partir de ce moment-là qu'il y a une extension des territoires habitables, beaucoup plus par exemple vers le nord de la France, vers le sud de l'Angleterre, qui était beaucoup plus difficile d'accès en dehors des périodes tempérées. Donc il y a quand même une modification des conditions de vie. Et pour moi, je vais dire quelque chose un peu simpliste, la maîtrise du feu, pour moi, c'est aussi aussi importante comme révolution qu'Internet.
Ah oui, carrément.
Parce que ça change vraiment, vraiment les conditions de vie à partir de ce moment-là, pour moi, de ce qu'on voit, la manière dont les hommes vont occuper l'espace et les conditions de vie.
L'image est amusante et intéressante parce qu'il n'y a pas un avant et un après humanité par rapport à Internet. On ne s'est pas transformé biologiquement. De la même manière, le feu ne nous a probablement pas transformé. Par contre, ça a transformé les conditions de vie et ça a eu une influence sur l'extension humaine et les évolutions ultérieures.
Vous évoquez, Marie-Hélène Montel, la situation climatique de l'Europe à cette époque. Ça veut dire que l'émergence de Néandertal, son éparpillement sur toute la surface du continent... est indissociable de cette révolution technique.
Alors déjà, Antoine va mieux répondre que moi, nous ne sommes pas avec des Néandertaliens à 400 000 ans, c'est vraiment le tout début des traits néandertaliens. Oui, parce que avant la maîtrise du feu, les hommes sont vraiment liés aux conditions climatiques. Ils vivent surtout dans le sud de l'Europe, dans des conditions favorables, tempérées, plutôt tempérées, même dans les périodes plus froides. L'alternance des périodes glaciaires n'est pas très marquée dans le sud de l'Europe. Mais lorsqu'il fait vraiment très très froid, la zone septentrionale de l'Europe est vide d'occupants. C'est pas possible de vivre. Avec le feu, quand ils vont maîtriser le feu après cette période, il va y avoir beaucoup plus de possibilités de s'étendre sur des territoires plus septentrionaux.
Antoine Balzo.
La structure de l'humanité à cette époque-là, justement, une des limites, c'est qu'on ne sait pas exactement quand le feu s'est démocratisé, quand il s'est étendu à travers ces différents groupes humains. Et puis aussi, l'évolution humaine, ce n'est pas une histoire toute droite et simpliste. En effet, il y a Néandertal, il y a Sapiens, il y a Homo erectus. Visiblement, tous les trois ont réussi à exploiter le feu. Néanmoins, ils sont tous les trois apparentés, avec peut-être aussi les Denisoviens, qu'on arrivera à dénommer prochainement, et peut-être qu'on trouvera d'ailleurs des sites dénisoviens avec du feu. Donc on se retrouvera avec quatre humanités différentes qui l'exploitaient. Ces humanités sont reliées, ça veut dire qu'ils ont des ancêtres communs qui remontent dans le temps. Les plus vieux néandertaliens aujourd'hui ont 400 000 ans, simplement parce que c'est le début des fossiles qu'on considère comme assez similaires à ceux qui ont 50 000 ans pour les mettre dans la même grosse boîte. Mais l'espèce en tant que telle existait auparavant, avait peut-être un autre nom. Et c'est la même chose pour Homo sapiens. Les plus vieux que l'on est, en fonction des chercheurs, c'est entre 300 000 et 200 000 ans. Néanmoins, l'ancêtre commun entre Néandertal et Sapiens, il a 700, 800 000 ans. Donc ça veut dire que ces lignées, ces groupes évolutifs existaient aussi auparavant. Et malheureusement, on a peu de fossiles, peu d'informations, peu de sites archéologiques pour comprendre... où étaient ces différentes formes humaines, quelles relations elles pouvaient avoir. C'est ce qui rend aussi toute cette histoire mystérieuse. L'intérêt aussi d'arriver à montrer des comportements communs et partagés, c'est que ça nous montre qu'il y a une connectivité de ces humains, des capacités partagées, donc des complexités partagées, et que ça va encore plus loin dans l'éloignement de l'idée qu'Homo sapiens est le seul et l'unique qui a été capable de faire des choses compliquées.
Ségolène Van de Velde, pour compléter justement sur ces comportements liés au feu.
Oui, en fait, c'est vous parliez tous de révolution aussi. En fait, pour moi, la vraie révolution, c'est le passage d'une société sans feu à une société avec feu. Et Catherine Perlès en parlait déjà dans son livre en 1977. En fait, dès qu'une société va utiliser le feu, s'occuper de le maintenir, de trouver du combustible, etc., ça implique une réorganisation de la société parce que ça fait beaucoup de tâches et beaucoup de choses à faire. Donc au-delà de tous les avantages que Marie-Hélène a mentionnés, donc la cuisine, la chaleur, la lumière, eh bien il y a aussi des contraintes qui viennent avec l'usage du feu et du coup ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans le fait que les humains peuvent faire le choix de l'utiliser ou non et aussi dans le fait que quand on a une restructuration de la société pour s'occuper du feu et ses nouvelles tâches, eh ben ça crée aussi des nouveaux liens et ça peut jouer aussi dans les processus d'hominisation qui a été évoqué par Antoine Balzo aussi. Et donc, au-delà de la cuisine, il y a aussi toute cette importance sociale du feu dans les processus d'hominisation. Et on sait en plus que la nourriture fermentée, donc notamment la viande fermentée, est aussi plus facilement assimilable que crue, de la même manière que quand elle est cuite. Et donc, là aussi, ça peut jouer peut-être dans les processus d'hominisation autant que la maîtrise du feu.
On évoque voilà cette réorganisation de la société. Vous évoquez également l'extension des territoires, Marie-Hélène Moncel. Bah, forcément, ce rapport à l'environnement, on peut penser à l'exploration des grottes profondes. Pour ça, il faut le feu.
Ah oui, tout à fait. On commence de plus en plus à le démontrer. Alors bien sûr, il y a la fameuse grotte de Bruniquel hein, qui a pu être datée à 170 000 ans, où ils sont rentrés très profondément à l'intérieur avec ce cercle de stalagmites qui avait été cassé. On ignore totalement, bien sûr, le sens de ce cercle de stalagmites. Mais oui, de plus en plus, on commence à s'apercevoir que les Néandertaliens sont allés profondément dans le noir pour récupérer, par exemple, probablement des peaux d'ours morts en hibernation, et peut-être aussi pour d'autres activités plus symboliques.
Est-ce qu'on a des traces de cette culture du feu, Marie-Hélène Moncel ?
Cette culture, qu'est-ce qu'on entend par culture du feu ?
Quand on parlait justement de cette maîtrise, d'une technologie qui passe du transport de la pyrite, enfin, est-ce que, j'imagine que c'est des traces qui sont impossibles à... Enfin, c'est du fantasme de pouvoir mettre la main sur ce type de traces-là.
Oui, alors déjà le fait par exemple de la pyrite qui n'est pas locale montre que c'est sans doute un objet qui est conservé, qui est précieux, qui est transporté, comme on sait que les Néandertaliens transportent leurs outils hein, dans une sorte de boîte à outils. Et après, probablement, enfin, à mon avis, si ça demande une maîtrise, c'est peut-être certains individus plus experts, comme ceux qui fabriquent aussi certains outils. Tout le monde dans le groupe n'était sans doute pas capable de fabriquer certains types d'outils. Et pourquoi pas imaginer également certains individus spécialisés dans la reproduction et la fabrication de ce feu.
Antoine Balzo, il y a un champ de recherche, là encore, très spéculatif. C'est la manière dont le feu a transformé les sociétés humaines, mais à un niveau anthropologique. On suppose même que les mythes auraient pu naître au coin d'un feu.
Oui, on peut essayer d'approcher ce genre de choses. Il y a des historiens qui travaillent là-dessus, qui remontent aussi le temps grâce aux connaissances et aux histoires qui existent encore aujourd'hui. Donc on peut faire de la préhistoire, de la mythologie en partant des données actuelles. Ça leur a permis de remonter assez loin dans le temps, d'arriver à ancrer des histoires assez loin, mais de toute façon, ce n'est pas non plus au niveau des échelles qu'on peut avoir pour l'usage régulier du feu par d'autres espèces humaines, parce qu'il y a d'autres biais évidents. Les langues se sont transformées, les langues parlées aujourd'hui sur Terre ont une ancestralité qui est finalement assez récente, comme d'ailleurs la biologie des humains aujourd'hui sur Terre. On est tous très très apparentés d'un point de vue anatomique et génétique, et tout ce qui a existé auparavant a laissé quasiment aucune trace dans notre biologie et visiblement dans notre culture. Malheureusement, ce serait passionnant d'avoir encore quelques mythes néandertaliens ou denisoviens. Peut-être qu'un jour on arrivera à remonter jusque-là, mais ça paraît un peu difficile.
Marie-Hélène Moncel.
Oui, ça me fait penser aussi à probablement le début de recettes grâce au feu. Par exemple, les spécialistes de faune arrivent à montrer qu'ils faisaient fabriquer des bouillons gras. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de gras pour tenir les modes de vie. Et ils ont démontré, en regardant les petits fragments d'os, qu'ils avaient été plongés dans de l'eau bouillante et pour récupérer donc c'est ce gras quoi. Donc pourquoi pas imaginer également tout ce qui va s'ouvrir comme le traitement de la nourriture grâce au feu, et donc pourquoi pas imaginer des recettes qui vont être transmises de génération en génération entre les groupes.
Alors je pense à une recette qui est pas du tout alimentaire mais une recette technique. Je pense au goudron néandertalien, enfin qui est quand même aussi une révolution technique.
Tout à fait,
ils sont super glue de la préhistoire.
Tout à fait, ils sont capables à partir du feu de transformer des matériaux pour fabriquer des nouveaux éléments qui va être une amélioration dans les conditions de vie.
En tout cas, on voit tout au long de cette émission, Antoine Balzo, que le feu, ça suscite quand même énormément de fantasmes. Bon, ce moment où l'homme s'extrait de sa condition animale, alors
oui.
Qu'on vient de voir que c'est pas forcément lié qu'à Homo sapiens, ni au genre Homo.
On s'y brûle facilement quand on raconte des histoires. Non,
c'est joli.
C'était facile, oui. c'est comme dans tous les sujets, dès qu'on parle de préhistoire et de comportement, c'est la discontinuité qu'il peut y avoir entre le registre archéologique, les interprétations scientifiques qu'on peut en faire, et puis les histoires qu'on va raconter derrière. Ce qui est toujours chouette, hein, et là on parle d'un article qui est publié, où finalement la principale découverte, c'est d'avoir trouvé un briquet préhistorique. Mais finalement, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que les humains de cette époque-là déjà maîtrisaient largement le feu.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir allumé à nouveau l'étincelle avec nous. Tout de suite, on quitte l'archéologie et on se penche sur les propriétés physiques spécifiques des cellules cancéreuses. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
Quelle est Quelles propriétés physiques permettent aux cellules cancéreuses de devenir une métastase? Un cancer, c'est d'abord une cellule normale qui déraille. Elle se met à se multiplier de façon anarchique tout en passant sous les radars du système immunitaire et forme ainsi une tumeur dite primaire. Mais ce qui rend certains cancers particulièrement dangereux, ce n'est pas seulement cette prolifération, c'est leur capacité à se propager ailleurs dans le corps. Pour cela, les cellules doivent quitter leur tissu d'origine, entrer dans la circulation, voyager dedans, puis en ressortir, une étape qu'on appelle l'extravasation, avant de s'implanter dans un nouvel organe. C'est la métastase. Et à chaque étape de cette progression métastatique, les cellules subissent des contraintes physiques très différentes. Jackie Goetz est directeur de recherche INSERM de l'équipe biomécanique des tumeurs de l'Université de Strasbourg.
Pour disséminer, elles doivent en effet emprunter à des fluides corporels, la circulation lymphatique, mais également la circulation sanguine. Et ça prend effectivement toute une série d'étapes à effectuer qui leur permet de traverser toute une série de contraintes, toute une série de parcours d'obstacles pour arriver à terme et établir un foyer tumoral secondaire qu'on appelle la métastase. Certains laboratoires ont passé énormément de temps en cherchant à caractériser la tumeur primaire, donc pas la métastase, à comprendre s'il pouvait y avoir une corrélation entre les propriétés mécaniques des cellules tumorales et leur capacité à former des métastases à distance, en regardant vraiment les cellules dans la tumeur primaire. Et pour faire ça, la majorité des laboratoires avaient pour habitude d'utiliser une technique de mesure de rigidité de ces cellules tumorales qui ne leur permettait de concrètement se concentrer que sur l'élasticité, donc la capacité qu'avait une cellule à être compressée et à reprendre sa forme.
L'élasticité, c'est revenir à son état initial. Mais est-ce réellement la seule capacité nécessaire pour qu'une cellule tumorale se faufile partout et colonise un autre tissu? Est-ce que d'autres compétences pourraient être au moins aussi essentielles qu'elle? C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude, parue dans Nature Materials, et elle explore une autre propriété qu'est la viscosité. La viscosité, c'est la résistance à l'écoulement, c'est la déformation lente dans le temps. Par exemple, le miel est visqueux et l'eau ne l'est pas, cette viscosité modifie la façon dont une cellule résiste aux contraintes. Le problème, c'est que mesurer des caractéristiques physiques sur quelque chose d'aussi minuscule qu'une cellule est extrêmement complexe. C'est toute la difficulté de ce domaine appelé la rhéologie cellulaire. Il faut faire des micro-manipulations, pincer, étirer, déformer les cellules une à une pour mesurer leurs réactions. Mais cette étude est allée plus loin en cherchant à comprendre ce que ces caractéristiques changent réellement dans un organisme vivant. Les scientifiques ont modifié génétiquement des cellules tumorales pour obtenir tout un panel de compétences physiques, des cellules plus ou moins élastiques ou plus ou moins visqueuses. Ils les ont ensuite injectées dans la circulation sanguine de poissons zèbres. En les filmant en temps réel, il est possible de voir quelles cellules se faufilent le mieux dans l'architecture vasculaire et lesquelles forment ensuite des métastases. Résultat, la viscosité des cellules est plus importante que l'élasticité, mais pas à toutes les étapes. Valentin Gensbittel est postdoctoral doctorant à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich.
En fait, viscosité plus élevée, ça veut dire finalement plus de rigidité, donc moins de capacité de déformation. En fait, on a vraiment plusieurs allers-retours entre avantages et désavantages pour une viscosité élevée. On peut voir ça en trois temps. Dans un premier temps, une viscosité réduite favorise la circulation et la pénétration en profondeur dans des vaisseaux de petit diamètre. Dans un deuxième temps, cette réduction de viscosité, elle confère un désavantage pour s'extravaser, c'est-à-dire sortir de la circulation. Et dans un troisième temps, ce qu'on constate, c'est que un profil de viscosité réduit favorise la croissance métastatique une fois que les cellules sont dans les tissus après l'extravasation.
C'est donc un paradoxe. Les propriétés qui aident une cellule cancéreuse à sortir de la circulation ne favorisent pas sa croissance dans un nouveau tissu. Autrement dit, à chaque étape de la progression métastatique, la viscosité peut représenter un avantage ou un inconvénient. Et ce que cela dit finalement, c'est que plus que la viscosité elle-même, c'est l'adaptation au nouvel environnement qui semble essentielle. La suite, ce sera de comprendre si la viscosité intervient aussi dans la capacité à devenir et rester invisible au système immunitaire, une autre compétence clé des métastases. Cela reste donc de la recherche purement fondamentale à ce stade, mais décrypter étape après étape ce qui fait une bonne cellule tumorale, c'est autant de nouvelles pistes dans le futur pour mieux les combattre.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la technique aujourd'hui, c'était Nicolas Déroulé et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.